Retrouvons le père Nicolas Steves avec les mots de la foi. La semaine dernière, il nous parlait du purgatoire. Voyons ce qu'il nous réserve cette semaine.
Donc la semaine dernière, quand j'ai parlé du purgatoire, j'ai dit que le purgatoire, ce n'était pas l'enfer, mais plutôt l'antichambre du paradis. Alors je voudrais voir avec vous cette semaine, qu'est-ce que c'est que le paradis ? Après tout, c'est un mot utilisé bien couramment. Il suffit de penser à la chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Le mot « paradis » vient d'un vieux mot persan, « paradiso », qui signifie « jardin enclos ». Ce mot a été rapporté en Occident par les Grecs, qui dans l'Antiquité ont été faire une expédition du côté de l'Asie mineure. Et puis, ils ont vu des jardins superbes des rois de l'Asie mineure. Et alors, ils ont ramené ce mot pour décrire un jardin de délices éternelles, d'une beauté à couper le souffle. Mais alors, qu'est-ce que l'Église a à dire sur le paradis ? Alors notons tout d'abord que le mot « paradis » est assez rare dans la Bible, puisqu'il n'apparaît que 6 fois. Mais l'une de ces 6 fois nous est très connue, elle est très importante pour nous, parce que c'est une fois où le mot de « paradis » arrive dans la bouche de Jésus lui-même. C'est la promesse qu'il fait au bon larron, alors que tous les deux sont en croix, en train de mourir. Et il dit, Jésus au bon larron, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est au chapitre 23 de l'évangile de Luc. Jésus utilise ce mot à l'instant suprême, le mot paradis, à l'égard d'un homme qui jusque-là n'avait pas été son disciple. Alors, à l'égard de ses disciples, Jésus utilise plutôt d'autres mots que celui de paradis, et il y a 2 expressions qu'il préfère, qui reviennent souvent dans sa bouche, qui sont l'expression de la vie éternelle et puis le royaume, que ce soit le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Jésus préfère ces expressions ? Probablement parce que le mot paradis, qui évoque le jardin, peut-être le jardin d'Éden, en même temps il y a un risque que ça décrive les choses de manière trop précise. Vous savez peut-être que le Coran, par exemple, décrit de manière précise ce qui attend les bienheureux au paradis avec des fleuves de vin et des vierges disponibles. Eh bien, la Bible préfère éviter d'employer un langage trop concret, même s'il y a des images comme celui du festin ou des noces de l'agneau, mais en fait on sait qu'il s'agit d'images tirées de notre vie terrestre concrète pour nous aider à comprendre une réalité qui, au fond, nous dépasse largement.
Mais alors, mon père, en quoi va consister la vie éternelle ?
Alors, la semaine dernière, j'ai dit que notre bonheur, et donc notre bonheur aussi pour l'éternité, consiste à pouvoir être libre et parfaitement capable d'aimer et d'être aimé. Alors le ciel, si on veut employer une autre expression géographique qui sert à désigner la vie éternelle, le ciel sera donc un état où nous serons parfaitement libres et totalement amoureux. À ce moment-là, nous serons en communion parfaite avec Dieu parce qu'il est la source de la liberté et l'amour parfait. Et puisque nous serons en communion avec lui, nous serons aussi en communion parfaite avec la foule innombrable de ceux qui sont sauvés. Les anciens parlaient de la vie éternelle comme la vision béatifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, eh bien que nous connaîtrons Dieu de manière immédiate, parce que la vue, c'est ce qui nous permet de connaître quelqu'un de façon immédiate, sans avoir besoin d'autre chose. Et dans cette vision de Dieu, quand nous le verrons, nous serons bien heureux, parce que la Bible nous promet que les justes verront Dieu face à face. Il n'y aura plus de voile entre lui et nous, nous pourrons le voir tel qu'il est. Et parce que nous serons remplis d'amour et de liberté, alors on sera capable de regarder les autres tels qu'ils sont, de les voir tels qu'ils sont, et même de nous regarder nous-mêmes tels que nous sommes. Parce que vous savez bien souvent, dans cette vie, on a tendance à voir en nous-mêmes et chez les autres que les défauts et à s'en attrister, alors que dans la vie éternelle, on pourra voir les autres et nous-mêmes tels que nous sommes. Et puis ça va nous remplir de beaucoup de bonheur. Alors, dernière précision. Le ciel, c'est pas un au-delà dont nous n'aurions aucune connaissance aujourd'hui, parce que parfois dans la vie concrète de tous les jours, nous avons la chance de faire l'expérience d'avoir comme un avant-goût d'éternité. C'est des moments où on vit un amour pur, dans une amitié très forte, enfin, et voilà, on pressent que ça pourrait être l'éternité comme ça, parfaitement amoureux et libre. Alors c'est pour ça que Jésus emploie l'expression du royaume de Dieu au royaume des cieux qui était à bâtir dans le monde concrètement aujourd'hui aussi pour en augmenter l'avant-goût. C'est pour ça que nous devons travailler à ce que se réalise sur Terre ce que Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour, en agissant tous les jours pour faire avancer la charité, la justice et la liberté. Et alors, en avant pour la vie éternelle.